Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode exceptionnel puisque nous recevons une invitée. Il s'agit d'Axel Avril. Bonjour Axel.
Bonjour.
Et pour discuter avec elle, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Axel, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ?
Eh bien, je suis chercheur en informatique sur les dans le domaine des antivirus chez Fortinet. Et je travaille sur tous les virus, sur les objets bizarres, les objets connectés, les téléphones mobiles aussi, parce que c'était un peu plus bizarre autrefois les téléphones mobiles, maintenant un peu moins. Voilà.
Donc, si je ne me trompe pas, tu viens de réaliser un workshop à la conférence hack.lu.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur cette conférence, sur ce qui t'a particulièrement plu pendant cette conférence?
Oh bah, ce qui me plaît toujours à hack.lu, c'est cette ambiance. Bon, je sais, c'est la troisième ou la quatrième fois que j'y vais. Et l'ambiance est toujours très sympathique parce que on arrive vite à parler avec les gens et puis on arrive vite à obtenir des idées. Il y a beaucoup de choses un petit peu différentes. Il y a le fait de pouvoir parler avec les gens qui est évidemment intéressant. Il y a aussi donc les conférences, il y a les workshops et il y a le CTF. Donc là-dedans, il y a toujours quelque chose entre guillemets pour vraiment s'intéresser au moment quand on en a marre de regarder des slides. Durant toute la journée, on peut faire une petite pause avec le CTF ou avec un workshop ou réciproquement. Enfin voilà, j'aime bien ce mode-là.
Parmi les conférences, quelle est la conférence ou les conférences qui t'ont marqué ?
Alors, moi, je suis allée surtout à un workshop sur le ROP, donc Return Oriented Programming, je suppose. Un peu, il me semble que c'est ça, ou programmation, un truc comme ça. Donc, où on va taper dans des morceaux de code à d'autres endroits non prévus. Donc, je dirais un petit peu comme tout le monde, je connaissais les principes de comment ça marchait, mais après, vraiment les utiliser, les mettre en œuvre, ça, je ne savais pas faire. Donc, ça, c'est justement l'idéal de faire un workshop là-dessus. Et donc, là, c'était assez long. Donc, c'est un workshop de 4 heures, il me semble. Je peux pas dire que j'ai tout compris exactement jusqu'au bout, mais j'ai peut-être suivi bien, on va dire, les 3 premières heures, donc c'est déjà un succès. Voilà. Et puis après, j'avais mon propre workshop, moi, un autre jour, donc finalement, ça n'a quand même pas pris pas mal de temps. Donc, moi, mon workshop, c'était sur comment réverser des malwares sur Android. Et puis après, qu'est-ce que j'ai suivi, que j'ai bien aimé? J'ai suivi notamment, par exemple, le talk de Damien Coquille sur du Bluetooth Low Energy, où il a monté en sorte de framework qui permet de faire des man-in-the-middle attack. Bon, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, ce truc-là.
Ça s'appelle les attaques du singe intercepteur. Mais ce qui est intéressant à dire, non, mais ça, plus sérieusement, c'est que il s'attaquer au Bluetooth basse consommation, ça me semble un peu bizarre, puisque le concept même du Bluetooth basse consommation, c'est de consommer très peu, en échange de quoi on a supprimé toute forme de sécurité qui consommerait du CPU, de la batterie, excusez-moi. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse faire des attaques de l'intercepteur, pour parler différemment que parler des singes.
Bah, on n'a pas supprimé toute la sécurité, puisqu'il y a du chiffrement quand même.
De manière à ce que... Ouais, enfin bon, c'est... Enfin, attaquer le Bluetooth Low Energy, c'est conçu dans le système comme ça, quoi.
Ouais, l'objectif n'est pas d'attaquer le Bluetooth Low Energy. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir lire et comprendre ce que font les objets connectés qui utilisent le Bluetooth Low Energy, en fait. Et pour ça, il faut se placer, quelque part. Donc, soit se placer dans la poche du téléphone mobile, par exemple, qui se connecte à l'objet connecté à distance ou quelque chose comme ça. Et là, son framework, ça facilite cette analyse-là.
Alors justement, l'objet de l'épisode aujourd'hui, c'est la sécurité des objets connectés. Quelle est selon toi la principale problématique ?
Bon, la problématique, y en a deux. La première, tout le monde la connaît, c'est que ils ont été développés pour la plupart et mis sur le marché rapidement parce qu'ils étaient attractifs, mais sans sécurité. Ça c'est un fait. Il y a des améliorations petit à petit. J'ai commencé un petit peu à regarder la sécurité des objets et puis j'ai trouvé que c'était presque trop facile, on va dire, de trouver des failles. Ça m'intéressait plus trop. Donc l'autre point qui m'intéressait moi plus, c'était de voir s'ils pouvaient être infectés. Et j'en suis venue à trouver en fait des fortes ressemblances avec ce qui s'est passé sur les téléphones mobiles il y a 5, 6 ans, 7 ans. Et on a un peu l'impression de se retrouver dans le même schéma, c'est-à-dire dans un schéma où on est sur le point d'avoir beaucoup d'objets connectés qui sont infectés. Il y a eu des attaques donc toutes récentes hein, sur DIN, DNS, OVH, etc. Donc avec des caméras, des choses comme ça. Mais je pense que ça va encore beaucoup s'étendre. J'ai fait de la recherche, par exemple, sur une brosse à dents connectée. L'attaquant, il s'en fiche d'attaquer ma brosse à dents, mais il s'en fiche de savoir si je me brosse bien les dents. Mais si ma brosse à dents se met à propager un virus, là, ça devient très intéressant pour moi en termes de recherche et ça peut effectivement, dans ces cas-là, l'intéresser, lui, l'attaquant, d'attaquer ma brosse à dents.
Les huîtres connectées, c'est quand même pas mal, ça, pour éviter les huîtres, ouais, donc des choses que tu vas manger qui sont connectées pour éviter les vols.
Pour éviter vol de l'huître ?
Le vol de l'huître, oui.
Waouh.
Du coup, si tu veux te protéger, t'as plus qu'à manger l'huître et tu règles tous les problèmes.
Et tu fais sonner le portique en sortant. Mais par contre, tu comparais la sécurité des objets connectés au téléphone mobile d'il y a quelques années, mais c'est pas plutôt à comparer plutôt à la sécurité de l'informatique, on va dire, domestique des années 90. Parce que ça ressemble vraiment, il y a zéro sécurité, ça peut être compromis à distance sans aucune difficulté, il n'y a pas de chiffrement, des mots de passe par défaut, des clés par défaut, enfin c'est
alors, une catastrophe. C'est vrai que les téléphones étaient mieux sécurisés, mais alors la comparaison que je faisais, c'est, je me souviens, c'était il y a 7-8 ans, je crois qu'il y avait, ou 6-7 ans, enfin le temps passe vite, mais il y avait des journalistes qui voulaient nous interviewer et puis qui nous ont dit mais non, vous inventez ça, il n'y a pas de virus sur les téléphones mobiles quoi. Et c'était vraiment, on n'est pas arrivé à leur faire comprendre qu'il y en avait déjà quand même à l'époque, il y en avait sur Symbian, etc. Il y en avait déjà quand même une bonne quantité, pas autant que maintenant. Mais vraiment, ils ne nous croyaient pas. On avait beau leur apporter des preuves, etc. Et donc, maintenant, là, on en a entre 3000 ou 4000 nouveaux par jour. Donc là, je pense que quand même, ils seraient convaincus. Mais là, c'est un peu pareil sur les objets connectés. Ça fait un an à peu près que je fais des présentations un petit peu à gauche, à droite, en disant, vous allez voir, il va y avoir des virus sur les objets connectés. Ça va venir vraiment en masse. Alors bon, quand on est prédicteur comme ça, c'est toujours un peu difficile. Mais la même chose, j'ai eu partout la même réponse, même dans le domaine de la sécurité. La réponse a été toujours, tout le monde s'en fiche d'attaquer ta brosse à dents. Et il a fallu chaque fois que j'explique, que je dise, oui, mais bien sûr, qu'on s'en fiche d'attaquer ma brosse à dents, sauf si ma brosse à dents, elle sert pour une attaque plus large, quoi.
C'est surprenant ce que tu dis, parce qu'on en parlait déjà il y a 2-3 ans, quand il commençait à y avoir des DDoS plus importants, et déjà à l'époque, on était beaucoup à le dire en disant, les objets connectés, ça va être l'avenir du DDoS, parce que ça a une sécurité totalement pourrie, il y en a de plus en plus, je ne sais plus quelle entreprise prédisait, je ne sais pas combien de dizaines de milliards d'objets connectés dans les années à venir, et j'ai l'impression en fait que ce n'est pas nouveau.
Oui, mais il n'y a rien qui est nouveau à ce compte-là, parce que tu as des gens, y compris contributeurs de No Limites Sécu, qui ont fait des conférences au César, je me souviens, à Rennes, dans les années 90, en expliquant que oui, on allait tuer Internet en s'attaquant au DNS. Et puis évidemment, tout le monde m'a pris pour un lézard de l'espace. Donc là, récemment, les gens se disent, il y a un mec qui avait dit ça il y a 20 ans. Bon, mais c'est toujours comme ça. Par contre, ce que je trouve très pertinent, c'est la comparaison d'Axel avec les téléphones. Parce que les premiers téléphones, ils n'avaient pas de mise à jour automatique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de téléphones qui ont des mises à jour de sécurité régulières. Est-ce qu'on peut imaginer que les objets connectés d'aujourd'hui, qui malheureusement, pour tous ceux que j'ai eu à utiliser, n'avaient pas de mise à jour de correctifs avec des correctifs de sécurité, est-ce qu'on peut imaginer que les objets connectés du futur bénéficieront de mises à jour pour corriger les failles ?
Honnêtement, moi, je pense pas, hein, parce que les téléphones... Enfin... Le problème qui est exploité dans l'histoire de l'attaque des caméras, c'est le mot de passe par défaut. Et là, tu peux faire toutes les mises à jour que tu veux. Le mot de passe, tu ne peux pas le changer. C'est un problème que plein d'opérateurs français ont eu sur leur box ADSL le jour où il y a eu des keygènes pour les clés Wi-Fi. Tu as beau upgrader la box, tu ne peux juste pas changer la clé Wi-Fi des gens. Quoi.
Attends, non, ça manque un peu de sarcasme.
On ne peut pas tout corriger par la mise à jour.
Mais si, regarde. Attends, un petit peu de sarcasme quand même. Regarde le constructeur chinois, là, il fait une mise à jour. Et il rappelle les millions d'équipements et de caméras qu'il a vendus. Il fait une mise à jour. C'est un petit peu plus long que les mises à jour automatisées, genre MS Update, mais voilà.
Mais il rappelle les caméras qu'il a vendues.
C'est ça, oui, il rappelle toutes les caméras.
Mais pas celles qu'il a vendues en marque blanche à des tiers. Et qui resteront.
Les caméras, il faut quand même voir que c'est un objet connecté qui est compliqué, et qui a souvent un petit OS dedans. Mais là, je parle même d'objets connectés beaucoup plus simples. Donc, par exemple, le tracker sportif, il n'y a pas un OS dessus. La brosse à dents, j'ai pas réussi à tout voir dessus, mais je ne crois pas non plus qu'il y ait un OS dessus à proprement parler, en fait. Et même ces objets-là, je pense qu'ils vont terminer par être infectés, en fait, un jour ou l'autre. Et vu qu'on les aura tellement intégrés dans notre vie de tous les jours, parce que ça va venir, alors j'en sais rien pour la brosse à dents connectée, mais petit à petit, en tout cas, il va y avoir de plus en plus d'objets connectés. Et si tout cela, ils se mettent à former effectivement un botnet et à attaquer quelque chose, il y a une force de frappe qui est importante.
Mais là, ça va être comme la différence entre les PC et les Mac, enfin les virus pour PC, les virus pour Mac, pareil, de ces dernières années. C'est si la plupart des objets connectés sont sur des Linux, tout le monde va s'attaquer à ça et personne va regarder l'objet connecté qui est un espèce de chip exotique, hyper compliqué à développer. Les gens vont pas s'embêter à développer des codes offensifs pour ça, sauf pour des attaques vraiment spécifiques.
Mais... Ouais. Après, il peut y avoir des plateformes qui vont être un petit peu utilisées par tout le monde. Si tout le monde se met à utiliser le Bluetooth Low Energy, on peut imaginer une attaque qui transporte un virus dans le Bluetooth Low Energy. Enfin voilà, il peut. Ouais. Les attaquants, ils ont des idées. Hein.
Ou des vulnérabilités communes à des librairies déployées sur tous les objets connectés.
Voilà, ou un truc par rapport au web browser ou à une connexion Ethernet, je sais pas. Voilà.
Comme la fameuse librairie libupnp, là, qui est tous les deux ans, il y a des vulnérabilités hyper critiques dessus.
Bon, alors les objets connectés font la une de l'actualité ces dernières semaines, puisqu'ils sont à l'origine d'attaques massives. Vladimir, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors effectivement, grosse attaque en particulier du côté des États-Unis, puisque, alors je fais juste un petit rappel de contexte, DIN est une entreprise américaine qui fait surtout en fait, du DNS managé, c'est-à-dire que les serveurs DNS ne sont pas hébergés chez le registrar comme classiquement ou dans l'entreprise, mais chez cette entreprise-là dont c'est le métier. Et d'ailleurs, c'est un gros acteur du domaine, parce qu'il est, je crois, 5 ou 6e dans le monde. Alors, le premier, c'est Cloudflare, à héberger des DNS, mais eux représentent 4,7% des DNS, enfin des noms de domaines mondiaux, ce qui est quand même assez conséquent. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont subi une attaque de données de service distribuées venant apparemment d'objets connectés, enfin d'IoT pour employer le terme marketing. Et donc, toute leur infrastructure a été coupée. Et ça s'est vraiment vu parce qu'en fait, ils hébergent les DNS de gros sites comme Twitter, Spotify, GitHub, PayPal, Netflix, PlayStation Networks, etc. Et donc, le problème, c'est que tous les utilisateurs qui voulaient accéder à ces services-là, forcément, devaient faire une requête DNS pour obtenir l'adresse IP du service et ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que tous les services, entre guillemets, genre Twitter, fonctionnaient parfaitement. Mais du fait de la panne du DNS de DIN, les services n'étaient indirectement plus accessibles. Donc c'est assez rigolo parce qu'en fait c'est vraiment un tiers qui a été attaqué avec un impact quand même assez conséquent pour l'Internet mondial. Parce qu'en gros si tu coupes Facebook et Twitter, plus personne n'a accès à Internet. Enfin, tout le monde considère qu'Internet est tombé.
D'accord, alors est-ce qu'on peut expliquer comment ces objets ont été utilisés pour réaliser ces attaques ?
Au départ c'est un botnet qui s'appelle Mirai. Enfin je sais pas si je prononce correctement, on lui a donné un nom russe mais c'est même pas sûr que ce soit des Russes derrière. Enfin, il a été publié sur GitHub, donc c'est le nom qui a été donné. Et les gens ont récupéré le code qui est sur GitHub et l'ont fait tourner à leur compte. Et le but, c'est juste de brute forcer en fait, du Telnet. Enfin, la plupart des caméras ou des enregistreurs vidéo tournent en fait, sur le port 23-23 et pas sur le port par défaut de Telnet qui est 23. Mais bon, modulo cette petite astuce, en gros, tu scans Internet, tu trouves tous les 23-23 ouverts et tu essayes en gros entre 50 et 100 mots de passe par défaut. Et si tu as la bonne bannière et le bon fabricant, dans 90% des cas, tu rentres. Et après, ce qui est intéressant aussi dans ce botnet, c'est que c'est pas persistant, parce que la plupart des OS de webcam en fait, sont en read-only, et ils passent en écriture seulement au moment des mises à jour de firmware ou des choses comme ça. Mais en fait, il y a tellement de scans sur Internet que si tu réinitialises ta caméra et tu repars en config d'usine, tu la remets sur Internet, il faut 5 minutes pour être infecté actuellement. Donc oui, on est dans la situation des années 90, enfin plutôt des années 2000, parce que dans les années 90, les gens n'étaient pas connectés, où tu mets un PC Windows 2000 sur Internet à poil sans firewall, en 5 minutes, tu te faisais infecter par Blaster. Quoi. Et c'est aussi simple que ça, c'était un bot qui se réplique lui-même et qui va scanner des caméras en config par défaut. Après, je crois que c'est... J'ai pas regardé comment ça marchait au niveau du CNC, des choses comme ça. Bon, il y a peut-être quelques astuces, quelques tailles d'implémentation, mais enfin, c'est à la portée de n'importe qui de prendre le code sur GitHub et de honner Internet.
Après, il n'y a pas que des caméras, il y a aussi beaucoup apparemment de NAS, de routeurs SAW, enfin les grands classiques.
Ce qui s'appelle les DVR, c'est-à-dire ouais. les recorders, donc les systèmes d'enregistrement qui prennent des flux de caméras IP et qui les enregistrent sur disque dur.
Non, mais ça, c'est pas des objets connectés, ce sont des ordinateurs.
Ah non, c'est des trucs que tu trouves dans des salles de contrôle de pompiers ou de sécurité physique.
Oui, mais c'est comme ton imprimante, c'est un PC à l'intérieur.
D'accord, mais c'est pas géré par l'informatique. Ouais.
D'ailleurs, ça concernait aussi, il y a eu des imprimantes qui ont été... apparemment concerné.
Non, mais après, tu as les appareils biomédicaux, la liste est sans fin.
Le truc vraiment intéressant du botnet, c'est déjà la liste des logins et mots de passe par défaut, c'est toujours intéressant à récupérer. Et aussi tous les shellcodes qui étaient quand même dédiés aux équipements, et ça, c'était pas mal. Avoir publié ça, je trouvais ça surprenant, parce qu'il y a quand même quelques heures de travail derrière pour coder tout ça.
Bah, en même temps, c'est une stratégie de dissimulation qui est assez habile, parce que à partir du moment où c'est public sur Internet, ça devient beaucoup plus dur de trouver la source. En fait, aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui scanne, tu peux pas dire c'est lui l'auteur, parce qu'en fait t'as des milliers de gens qui scannent et même des gens légitimes qui essayent d'identifier tous les appareils pour enfin je sais pas ce qui va se passer, mais il y a déjà eu un rappel de produit. On peut imaginer que dans certains pays ils vont aller après les gens qui ont des machines infectées, peut-être que les FAI vont faire quelque chose, quoi, parce que là on a atteint un problème, enfin la taille du problème est telle que les gens pourront plus se mettre la tête dans le sac en disant c'est le problème de quelqu'un d'autre.
Mais qu'est-ce que tu penses que les gens vont faire?
Rien.
Non, je pense que les FAI pourront te notifier que tu as un problème ou mettre des règles de filtrage. Si je vois que ta caméra elle tourne sur 23-23 et qu'elle est infectée, du coup, ils pourront la bloquer, etc.
Enfin, tu crois qu'ils vont aller jusque-là, une espèce d'ingérence vraiment à ce niveau-là?
Bah, écoute, aujourd'hui, par exemple, le port 25 est filtré par pas mal d'opérateurs pour éviter le spam. Mais à l'époque de Windows 2000, puisque tu aimes bien le rétro-computing, au début... avec Windows 2000, tu scannais Internet, tu te connectais à des partages réseau avec admin et pas de mot de passe.
Ouais, c'est vrai.
Et dans Windows XP, Microsoft a dit les comptes sans mot de passe, on ne peut pas les utiliser à distance. Mais avant que ça arrive, la plupart des FAI filtraient le 135 et le 139, le 445, etc. quoi, pour éviter que les gens avec du Windows se retrouvent à poil sur Internet. Alors après, il y a toujours une option subtile dans ta box à cocher si tu veux récupérer la fonctionnalité, mais par défaut, c'est désactivé. Et c'est pas impossible qu'un FAI qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'infections se mette à bloquer le port 23-23 pour éviter les ennuis. Je sais pas, vous voyez des idées géniales pour sauver le monde ou pas?
Non, mais tu comprends que nos idées géniales pour sauver le monde, on peut pas les diffuser sur nos limites sécu.
Mais si, vas-y Hervé, parce que dans 20 ans, comme ça, peut-être que quelqu'un dira « Tiens, j'ai écouté un épisode de nos limites sécu il y a 20 ans
!» Le truc, c'est quand même aujourd'hui, le problème... a pris une taille, je veux dire, les PC domestiques infectés, finalement, c'était gérable parce que les gens n'ont qu'un seul ordinateur à la maison, puis au bout d'un moment, il a tellement de virus qu'il ne démarre plus, donc ils ne s'en servent plus.
Mais il n'est pas tout le temps démarré aussi.
Et oui, enfin, à part chez les gens qui font du peer-to-peer, sinon il n'est pas tout le temps démarré. Oui. Mais
de moins en moins avec les tablettes et les smartphones.
Oui, c'est vrai aussi que les ventes de PC sont en chute libre. Mais le jour où tu as effectivement 20 ou 30 milliards d'objets connectés en permanence à Internet et reliés sur le secteur, là, le problème se démultiplie. Enfin, surtout qu'il n'y a pas de fabricant unique. Il y a des tas de petits fabricants, des revendeurs en marque blanche, des gens qui embarquent des chipsets et du code sans savoir qu'en fait c'est de l'OEM et que ça a été fait par quelqu'un d'autre, etc. Et là, du coup, le problème change d'échelle parce que je ne sais pas qui va pouvoir adresser ça. L'ENISA a commencé, je ne sais plus si c'est l'Europe ou l'ENISA a dit qu'il fallait une certification sur les objets connectés. Alors, je ne sais pas
j'ai
si
vu
ils
pensent.
Ouais, j'ai vu passer aussi, mais enfin, ça m'a semblé assez folklorique. Hein.
Non, mais parce que c'est le début.
On parlait beaucoup de déni de service sur les objets, enfin, causés par des objets connectés. Mais il y a aussi les ransomware. Donc des demandes de rançon par rapport à ça, je pense que ça va pouvoir marcher. Bon, alors après, ça dépend jusqu'où on appelle un objet connecté, etc. Mais par exemple, une voiture, il y a de plus en plus de voitures connectées. Si moi, le matin, la voiture, elle me dit « Ah ben non, désolé, il y a un ransomware, paye 100 € si tu veux démarrer ou sinon on va voir ton garagiste », on sait très bien qu'entre les deux, le temps d'aller chez le garagiste qui va en prendre 200 pour trouver la panne, ben, on est mal barré. Hein.
Il y a des scénarios plus ciblés. Hein. Enfin, moi, des tout premiers objets connectés auxquels j'ai été confronté, c'était dans une conférence sur la sécurité physique, où les gens avaient mis en Bluetooth des détecteurs incendie pour éviter de tirer des câbles qui coûtent très cher. Bon, ben, à l'époque, c'était les tout débuts du Bluetooth, hein, il y a longtemps. Mais c'était fou, leur système. On pouvait faire croire à un faux incendie, et puis comme ça, tout le monde sort du bâtiment, et puis hop, on en profite pour voler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, il y avait plein de scénarios enfantins. Après, ils ont vu qu'ils avaient fait des bêtises, tout ça, ils ont corrigé. Mais c'est... Enfin, en tout cas, on peut en imaginer plein d'autres, des scénarios avec les objets connectés. Si on prend les gros objets comme la voiture, là, c'est pour moi, c'est trop large. Pour moi, la voiture, je considère ça comme un système d'information, pas du tout un objet connecté.
Oui, c'est surtout quoi, du moins à l'intérieur, c'est beaucoup plus complexe, quoi.
Et l'objet connecté, c'est le capteur de pression qui fait lui-même des calculs ou je ne sais quoi, qui est dans la roue et qui est forcément en sans fil parce que la roue tourne. Mais voilà, je pense qu'il faut distinguer l'objet du système. Donc les objets connectés, c'est plutôt, comme tu disais, les machins qu'on met au poignet pour mesurer la tension, le rythme cardiaque, et, enfin, la balance, ce genre de choses. Ouais.
Mmh. Ah, mais il y en a quelques-uns là-dedans qui sont critiques. Notamment quand on s'adresse dans le domaine médical. Puis après ça, il y en a d'autres, ça dépend le public. Je sais pas, un adolescent, un enfant, sa console de jeu marche plus. C'est peut-être pas critique pour les parents, mais pour lui, ça risque de l'être et il réagira différemment, quoi. Si elle marche plus, quoi.
Ouais, mais il aura pas l'argent pour payer la rançon.
Si on demande 100 €, non. Mais si on demande 5 €, peut-être. Et on a bien vu avec les virus pour les téléphones mobiles, il n'y a pas besoin de demander beaucoup à niveau rançon. Hein. Suffit de demander très peu, mais à beaucoup de personnes.
Ouais. Si on veut faire dans la prospective pour les gens qui écouteront le podcast dans 20 ans, si Internet existe encore. Il y a un scénario que je trouve très intéressant pour reprendre le cas que tu citais des objets très peu connectés comme les bracelets de santé ou les trucs comme ça. C'est le cas de la peste dans World of Warcraft, où à un moment il y a eu un glitch dans le jeu, dans un boss qui envoyait un sort, et en fait du coup le sort se propageait aux gens avec qui tu combattais, mais le problème c'est que les personnages non-joueurs, eux, ne mouraient pas et transportaient le sort en dehors, et en fait tout l'univers de World of Warcraft s'est retrouvé infecté par cette peste numérique qui faisait saigner les gens. Et donc ça a été utilisé en épidémiologie et dans plein d'études ultérieures. Et je pense qu'on va de plus en plus en fait vers les mesh networks et les micro-réseaux. Si tu regardes aujourd'hui, si tu achètes des ampoules connectées, par exemple, ils te demandent d'installer un routeur chez toi pour faire parler les ampoules entre elles. Et souvent, ils utilisent des protocoles différents. Ils utilisent du BLE ou du Zigbee ou des protocoles propriétaires. Et à terme, il est probable que tu aies plein de micro-réseaux, soit chez toi, soit pour interagir entre individus, qui passent plus par Internet, pour que tes objets fonctionnent en zone blanche, ou, tu vois, quand tu fais du ski ou autre. Et du coup, tu pourrais imaginer des objets infectés ou qui s'attaquent entre eux, mais en dehors de toute connexion Internet. Et là, je ne sais pas comment tu fais pour traiter ça? Parce qu'autant quand il y a Internet, je veux dire, il y a un point de passage obligé avec des opérateurs qui filtrent, des services de cloud, etc. Mais quand tu es porteur d'un objet qui infecte tes voisins, comment tu fais pour arrêter ça, quoi?
Mm-hmm. Mais c'est un peu comme il y avait une époque, les transmissions de virus par SMS qui exploitaient une vulnérabilité, une exécution de code derrière. Je crois qu'il y a eu quelques problématiques en Chine. Alors, je ne sais plus si c'était iOS ou Android, mais il y avait ce type de problématiques.
Il faut dire qu'en Chine, ils ont des camions qui passent et qui arrosent, en fait, qui font du broadcast cellulaire de SMS pour faire de la pub.
C'est du marketing, c'est la publicité.
Oui, mais rien ne t'empêche de faire la même chose pour envoyer des virus. C'est quand même des choses qu'on voit moins en Europe. Et là encore, le SMS, il passe par les opérateurs. Donc, s'il faut filtrer... Bah, tu vois, quand tu as une faille majeure qui sort dans les stacks SMS, il y avait le SMS of Death qui faisait planter l'iPhone. Tu pouvais plus... tu étais obligé de redémarrer. En général, les opérateurs filtrent ce genre de choses.
Oh bah, ce que tu peux faire avec le camion, c'est ouvrir ou fermer les volets des gens. Enfin, je veux dire, tu balances tous les signaux qui sont assez connus de tous les fabricants de volets roulants, et hop, le tour est joué. Donc, enfin, moi, je vous rassure, hein, j'ai un système qui est filaire. Hein.
T'as une manivelle que tu tournes pour fermer tes volets, c'est super.
Non,
c'est
dur. J'ai un bouton.
Moi, j'ai un système que j'ai fait moi-même, qui est automatisé, avec un bouton à côté, pour tous les bugs que j'ai laissés dans mon système.
Mais pour revenir au bracelet, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que moi, je n'en connais que deux. Et il y en a un des deux qui est parfaitement sécurisé, qui n'exporte même pas les données hors du territoire européen pour respecter vraiment tout ce qu'il peut en matière de législation. Ben, sauf que le bracelet qui est entre guillemets sécurisé et avec la vie privée à la conception, ben, en fait, il donne des résultats faux. Donne des résultats faux. C'est-à-dire que tu mets plusieurs bracelets sur toi, et puis tu as aussi un téléphone portable, et tu compares les résultats de tous, et tu constates que celui qui a fait des efforts en sécurité, sans doute le seul, mais il n'est pas très juste. Là, on se dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Mais c'est peut-être pas à cause de la sécurité.
Non, c'est sûrement pas à cause de la sécurité, mais ça m'a fait quand même rigoler de constater que le seul qui a fait des... En tout cas, un des rares, sans doute, qui a fait des efforts, et ben finalement, il a un problème de fond sur son bracelet, ce qui ne donne pas des résultats justes.
Ouais, mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il ne pourra jamais être utilisé comme preuve légale et tout, quoi. C'est super.
Alors, j'ai peut-être posé la question qui tue, mais apparemment, en France, on est très en avance sur les objets connectés. Il paraît qu'au CES, on a... la fourchette connectée, la tétine connectée, etc. Est-ce que le niveau de sécurité des produits cyber-souverains est meilleur que la moyenne ou pas?
J'en ai aucune idée, moi.
On n'avait pas dit bienveillance.
Dans les objets... Non, mais la réponse peut être oui. La France est très en avance et on a une maturité énorme. Enfin, je sais pas, dans les objets que tu as attaqués, c'était de sans citer les fabricants, mais quels étaient les pays d'origine?
Non, je suis en train de réfléchir. Il n'y en avait aucun qui était français, moi. Non. Mais je n'ai pas fait après d'études sur la répartition géographique des entreprises. Donc, vraiment, je n'ai aucune donnée pour dire oui ou non dans aucun des sens. Ce serait une recherche intéressante, mais là... Je ne peux pas répondre dans un sens ou dans l'autre, quoi.
Et alors là, on a quand même parlé d'objets connectés qui étaient connectés sur Internet ou qui étaient en Bluetooth. Et Axel, qu'est-ce que tu penses de la sécurité des objets qui sont connectés sur d'autres formes de réseaux comme
Sigfox.
Enfin, les réseaux genre LoRa, etc. Sigfox, enfin, etc. Est-ce que tu as regardé ça?
C'est ma prochaine cible. c'est le prochain truc que je veux regarder, en fait. Mais je connais pas suffisamment ces protocoles-là pour l'instant. Mais oui, ça. Oui, faut regarder là-dessus, hein, c'est sûr.
Aujourd'hui, tu as des objets connectés qui fonctionnent over SMS ou over 2G, hein, et la sécurité du SMS. Enfin, quand t'as je sais pas, un verrou ou un vélo ou un distributeur de boissons qui te libère l'objet parce qu'il a reçu un SMS en retour, à spoofer, c'est pas très très dur, quoi.
Ah oui, mais tu as des distributeurs de boissons, incroyable mais vrai, mais tu as des distributeurs de boissons qui font de l'IPsec sur GPRS. Et comme quoi, il y en a qui font
de la
sécurité.
Probablement des distributeurs de champagne, non?
Non, mais c'est pour dire que tous les distributeurs de boissons ne sont plus en SMS tout bête comme il y a eu à une époque. Et d'où l'intérêt de piquer la puce. Hein. Non, parce que je rappelle que les distributeurs de boissons étaient attaqués non pas du côté de la caisse qui contient les sous, mais du côté de la carte électronique qui contenait une carte SIM qui fonctionnait sans code. Mmh. Oui, et qui au tout début n'était pas limitée au transfert de données. Et donc, pouvait servir à téléphoner pour de vrai quand on mettait la carte SIM dans un vrai téléphone. Bon, je vous rassure, ça n'a pas duré. Mais c'est arrivé en vrai. Les opérateurs s'en souviennent.
À du temps où il y avait des cabines téléphoniques.
Non, c'est en fait, c'est les gens, ils attaquaient... Oui, non. Ils attaquaient le distributeur en le cassant, en récupérant la carte électronique pour prendre la puce GSM qui était dessus, dans laquelle il y avait une carte SIM.
D'accord.
Et parce que, en fait, le distributeur, il est rempli correctement chaque jour. Donc, effectivement, comment ça se fait que dans la camionnette, il y a exactement ce qu'il faut pour remplir le distributeur à ras-bord dans la petite camionnette du livreur? Parce que on sait exactement ce qui a été consommé et donc qui manque dans chaque distributeur de la tournée. Et ça, c'est parce que le distributeur est connecté. Et bien entendu, on ne va pas tirer des lignes téléphoniques au distributeur. Déjà, l'électricité, c'est compliqué. Donc, ils sont avec une puce GSM. On trouve ça sur les imprimantes haut de gamme aussi, hein, qui ont une puce GSM pour leur télémaintenance. Bon, c'est une autre forme de connexion en dehors de la connexion Ethernet réseau local de l'imprimante. Il y en a, de toute façon, des trucs comme ça, on en a tellement, on peut pas les lister. Hein. Enfin, c'est là on découvre que les objets connectés, c'était déjà il y a longtemps. Là, on découvre ça parce que on pense aux petits objets, quoi. Et puis, on a les attaques en déni de service en utilisant tous ces petits objets par million.
Oui, ce qui a changé aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile d'attaquer l'IP. Je veux dire, si c'est sur du SMS ou sur de la radio, évidemment, c'est possible, mais ça demande du hardware, c'est plus à la portée de n'importe qui. Alors que si tu reprends l'exemple du botnet Mirai, le code est sur GitHub, n'importe qui a une liaison Internet peut le faire tourner, quoi. Et ça, c'est en termes de site. En fait, c'est pas vraiment Absolument. Une histoire de connexion sur les objets, c'est surtout une histoire d'IP. Je peux dire que les gens qui étaient sur Token Ring et IPX, le jour où ils sont passés à Ethernet et TCP/IP, ils ont vu le nombre d'attaques multiplié par 10 parce que bah, d'un seul coup, il y avait plein d'attaquants qui connaissaient la techno, quoi.
Oui, donc il faut développer les systèmes propriétaires pour améliorer la sécurité.
Bah oui, sauf que les systèmes propriétaires comme les réseaux radio d'Internet des objets qu'on a aujourd'hui, ils tombent, quoi. Enfin, les je veux dire, ils restent pas secrets très longtemps, quoi. Donc
moi, je me souviens effectivement sur les voitures où simplement les passionnés d'autoradio avaient collé l'OSIO pour rétro-ingénérer le protocole propriétaire du bus de la voiture. Et dans les forums sur Internet, tu avais tout le détail du protocole qui pourtant était archi-secret et jamais publié.
Ok, je crois qu'on a, bien battu le sujet là. Vous voyez quelque chose à ajouter? Bah, tu peux nous faire un petit teasing sur tes prochaines recherches, tes prochaines publications. J'ai vu que tu parlais dans une conférence en Roumanie là bientôt.
Ah oui, tiens, c'est vrai, oui. Je vais parler justement de l'infection d'objets connectés. Avec quelques petites démos sur une infection de lunettes connectées. C'est toujours rigolo, d'autant plus que moi j'ai toujours besoin de plein de lunettes, donc de paires de lunettes, ça fait une paire de lunettes de plus. Il y a aussi une montre connectée, où là j'ai une autre démo là-dessus, donc de pseudo-infection, hein, parce qu'évidemment je ne vais pas créer des vrais cas. Et voilà, ça va au moins en tout cas montrer que y a même les objets connectés simples peuvent être sujets à être infectés. Et je pense que bon, ce sera quand même en plus amusant du fait des démonstrations. Quoi.
Bon, et bien Axel, merci d'avoir accepté notre invitation.
Eh bien, merci de m'avoir écouté.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.